Laudetur Jesus Christus.
Le viol comme arme de guerre, c'est le cas notamment en Ukraine. Nous reviendrons ce soir sur la lente reconstruction des victimes. Dans ce journal, nous irons aussi en Roumanie. Le premier tour de la présidentielle a vu la victoire d'un populiste d'extrême droite. Analyse à suivre de ce vote anti-système. Dernier cycle de négociations sur un traité mondial contre la pollution plastique. Les discussions se tiennent cette semaine à Busan, en Corée du Sud. La mort du cardinal Miguel Angel Ayuso, aujourd'hui à l'âge de 72 ans, il était la figure du dialogue interreligieux au Vatican.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonsoir à toutes et à tous. Le viol des femmes ukrainiennes systématisé dans la guerre menée par la Russie. En cette journée internationale pour l'élimination de la violence envers les femmes, nous vous proposons de revenir sur un pan abject de cette guerre, l'utilisation du viol comme arme de guerre. En un peu plus de 1000 jours de guerre, les procureurs ukrainiens ont documenté 321 cas de viol et autres formes de violences sexuelles, principalement attribuées aux forces russes. Céline Bardet est juriste, présidente et fondatrice de l'ONG We Are Not Weapons of War. En français, nous ne sommes pas des armes de guerre. On l'écoute.
Sur la reconstruction personnelle des victimes, il peut y avoir des aspects médicaux, donc de prise en charge chirurgicale, etc., qui peuvent se faire. Mais ce qui est le plus compliqué et qui prend le plus de temps, c'est la question de la santé mentale. Et donc, c'est la question de la reconstruction psychologique. Parce que pourquoi le viol, et je dis, c'est une arme à déflagration multiple ? Parce qu'on sait que les impacts ont des effets sur le temps. Toutes les survivantes, par exemple, elles disent toutes du monde entier, elles ont souvent cette phrase à peu près similaire où elles disent « j'aurais préféré être morte » ou « je suis morte à l'intérieur ». Ça dit ce qu'est le viol. Donc, il faut travailler avec des appuis psychologiques. Et puis, il y a aussi les familles. Il ne faut pas oublier non plus, encore une fois, que quand une femme est victime d'un viol, par exemple, ou une jeune fille, il y a un impact sur la famille, un impact sur le mari, sur le père qui a été impuissant, il y a un impact sur toute la communauté. Donc, il faut travailler autour de ça. Ce sont des accompagnements qui demandent beaucoup de temps et qui sont essentiels si on veut que les survivantes reprennent leur vie, parce que je le dis souvent, on n'est pas une victime toute sa vie, on peut reprendre sa vie et on peut continuer sa vie, il faut être accompagné. Donc la santé mentale, par exemple, c'est quelque chose qui est encore pas suffisamment développé et financé.
Des propos recueillis par Jean-Charles Puzolu. À noter qu'en France, dans le procès sur les viols en série au retentissement international, 20 ans de réclusion, soit la peine maximale, ont été requis aujourd'hui contre Dominique Pellicot, qui durant une décennie a drogué sa femme pour la violer, à la faire violer par des dizaines d'hommes inconnus recrutés sur Internet. Direction maintenant la Roumanie, traversée par un séisme électoral. Pour la première fois depuis la chute de la dictature communiste, le Parti social-démocrate, le PSD, le plus grand parti du pays, ne se qualifie pas pour le second tour de la présidentielle. À la surprise générale, c'est Carline Georgescu, technocrate pro-russe d'extrême droite, créditée à seulement 5% dans les sondages, qui est arrivée en tête hier lors du premier tour. Sa campagne, axée sur une critique de l'OTAN et la nécessité d'arrêter de soutenir l'Ukraine, a su convaincre les électeurs désabusé par les affaires de corruption qui gangrènent le PSD depuis des années. Une victoire qui s'accompagne d'un excellent score pour George Simeone, le leader du parti ultra-nationaliste Alliance pour l'unité des Roumains. Il arrive lui en quatrième position. La chercheuse Ramona Coman est professeure de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Elle revient sur cette percée de l'extrême droite en Roumanie.
Et c'est une surprise. Pourquoi? Parce qu'on a très peu parlé de ce candidat Carline Georgescu avant les élections. Il a eu très peu de couverture médiatique dans les journaux et dans les débats télévisés, dans les médias un peu traditionnels. Mais je pense que c'est TikTok qui lui a permis de disséminer ses idées, son programme politique, surtout ses messages anti-Union européenne, pro-russe, beaucoup de messages contre l'Occident. Et Georgescu, comme tout leader de parti populiste d'extrême droite, il capitalise aussi avec un discours très simple. Donc ici, ce qu'on voit, c'est un vote anti-système parce que le candidat Georgescu avec le parti de George Simeone ensemble. Dans beaucoup, beaucoup de départements en Roumanie, ils arrivent ensemble à un peu moins de 40%. Et c'est un peu partout, hein. C'est pas un vote, vous savez, avant on disait oui, mais c'est la Moldavie parce que plus pauvre, mais c'est le sud du pays parce que plus pauvre, regardez la Transylvanie, c'est différent. Non, le candidat Călin Georgescu, il parvient à avoir des votes en Transylvanie, dans le sud du pays, en Moldavie, au nord du pays également. C'est une énorme claque.
Des propos recueillis par Alexandra Sirgan. Et le second tour de l'élection présidentielle en Roumanie aura lieu le 8 décembre, mais d'ici là, les élections législatives à un tour auront lieu le 1er décembre. Un naufrage au large de Madagascar. Des personnes de Somalie qui cherchent à se rendre vers l'archipel des Comores et l'île française de Mayotte. Sur 48 passagers, 22 sont morts en mer. Mayotte, qui est l'un des départements les plus pauvres de France, aujourd'hui la durée des coupures d'eau est encore allongée. À cause de la sécheresse en cours, l'eau du robinet sera désormais coupée pendant 30 heures de suite tous les deux jours. La crise de l'eau à Mayotte est due à une saison des pluies tardives, une surpopulation et des infrastructures dysfonctionnelles. C'est une longue semaine de négociations qui a commencé aujourd'hui à Busan, en Corée du Sud, autour de la pollution plastique. Sur les 380 millions de tonnes de plastique produites par an dans le monde, la moitié sont des produits à usage unique et un tiers finissent dans la nature, principalement dans l'océan. Un fléau auquel s'attellent les Nations Unies. Des négociations ont été entamées en 2022 et doivent se clore cette semaine avec un traité mondial visant à réduire la pollution et la production de plastique. Mais les tractations semblent déjà difficiles. À Busan, Clément Le Breton.
Un texte de 73 pages qui n'attend plus que d'être signé. L'objectif est de réduire la pollution plastique dans le monde en favorisant le recyclage. Un point qui fait consensus aujourd'hui, mais ce n'est pas tout. Car au-delà des déchets, le traité insiste également sur la réduction de la production de plastique. Et c'est ce point précis qui est au cœur des débats. Le plastique étant issu de pétrole, les pays extracteurs comme l'Arabie Saoudite, mais également les producteurs de plastique comme la Chine, s'opposent à une réduction de la production et souhaitent se concentrer seulement sur le recyclage. Autre point important de ce texte et qui accentue les tensions, c'est que le traité est légalement contraignant. Les pays signataires s'engagent à le respecter sous peine de sanctions. Alors, malgré les divergences au sein du comité de négociation, il va falloir s'accorder pour récolter un maximum de signatures le 1er décembre. Clément Le Breton, Busan, Radio Vatican.
Les conflits en Ukraine et en Terre Sainte sont deux échecs de l'humanité. Les propos sont du pape François ce matin, qui dans les deux cas a dénoncé l'arrogance de l'envahisseur. Une phrase improvisée lors d'un discours sur le 40e anniversaire du traité de paix entre le Chili et l'Argentine. Il était la figure du dialogue interreligieux au Vatican. On a appris cet après-midi la mort du cardinal espagnol Miguel Ángel Ayuso, le préfet du dicaster pour le dialogue interreligieux. Il s'est éteint ce lundi à 72 ans après une longue maladie. Le pape François Olivier Bonnel avait demandé ce matin lors d'une de ses audiences de prier pour le cardinal en fin de vie.
Oui, Marine François recevait alors une délégation de Jain, cette école de spiritualité indienne. Elle était accompagnée par des membres du dicaster que présidait le cardinal espagnol. On savait la santé du cardinal Ayuso très fragile. Au mois de septembre, il n'avait pu accompagner le Saint-Père lors de son voyage en Indonésie où le dialogue interreligieux, on le sait, était l'un des axes forts. Né à Séville en 1952, Miguel Ángel Ayuso était entré dans l'ordre missionnaire des Comboniens en 1973 et y avait été ordonné prêtre en 1980. C'est en Égypte, puis au Soudan qu'il sera ensuite missionnaire. Il en revient arabisant et fin connaisseur de l'islam. En 2007, Mgr Ayuso est nommé consultant auprès du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Il deviendra ainsi le bras droit du cardinal Jean-Louis Torrent avant de lui succéder à la tête du dicaster en 2019, année au cours de laquelle il est créé cardinal par François. Le cardinal Ayuso est associé à un thème clé du pontificat du pape François, la fraternité humaine. On l'entend ici dans ce message enregistré en 2021.
Les responsables religieux doivent être une contagion d'espérance et rendre témoignage aux sociétés dans lesquelles ils vivent de l'unité, de la solidarité de la fraternité.
Cheville ouvrière de la déclaration d'Abu Dhabi en 2019, signée par François et le grand imam d'Al-Azhar, le très discret cardinal espagnol, sera aussi celui qui aura travaillé de très près avec le pape dans la rédaction de son encyclique Fratelli Tutti, Tous frères, publié il y a 4 ans.
Merci Olivier Bonnel. Ces détails sont bien sûr à retrouver sur notre site internet. Merci de votre écoute. Une très bonne soirée à toutes et à tous.